Bonjour auditrices, auditeurs, artistes et tous ceux qui nous écoutent, c'est l'Actuali sur les ondes du 107. Aujourd'hui, avec moi derrière le micro, un photographe amateur mais surtout naturaliste passionné. Vous avez peut-être vu passer son nom sur la première de couverture de certains livres d'orchidées ou même celui ayant reçu le prix mondial du livre d'images de montagne, rien que ça. Je nomme Hervé Parmentla, comment ça va ?
C'est parfait, bonjour Lee et merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici.
Alors, est-ce que tu peux te présenter, toi, avec tes propres mots ?
Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? 55 ans, enseignant dans la vraie vie, mais en dehors de mon métier, je passe énormément de temps dans la nature pour l'apprécier à sa juste valeur et puis pour la photographier quand je peux aussi.
Je suis ravie de t'avoir dans mon émission aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit, t'es un naturaliste passionné dans l'âme. D'où est-ce que te vient cet attrait pour notre mère nature ?
Oh ben sûrement, ça va pas être très original, mais de mon enfance tout simplement. Je crois que j'ai eu la chance de naître dans une petite vallée des Vosges, assez enclavé, c'est la vallée de la Vologne, du côté de Quichonpré, près de Gérardmer. Okay. Donc la nature a été autour de la maison et j'ai passé énormément de temps dehors dès mon plus jeune âge. Donc je suis né avec la nature en quelque sorte et elle ne m'a jamais quitté. Mais c'est surtout durant mes années d'étudiant où là, j'étais étudiant en géographie, où j'ai commencé à avoir une âme un peu naturaliste, c'est-à-dire aller au plus près des espèces, des fleurs d'abord, et puis après des animaux.
Ok, voilà. D'accord. Alors, t'as beaucoup de projets qui ont été concrétisés, ouais. T'as des livres qui ont été publiés. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ce que t'as fait en surface ?
Voilà, c'est compliqué. Hein. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à la botanique. Et la flore, on va dire, patrimoniale du massif vosgien. Et puis est née un jour l'idée de compiler tout ça dans un livre à destination du public pour amener les gens à aller sur le terrain et avec des petits circuits leur permettant de voir les plantes. Parce que les voir dans les livres, c'est une chose. Les voir en vrai, c'est autre chose. Voilà. Donc c'était le projet. C'est un livre qui s'appelait « Merveilles des Vosges ». Et qui date déjà maintenant, je crois que c'était 2010, ça a été mon premier projet. Donc à la fois de la photo, de la pédagogie, parce que étant enseignant, j'ai toujours aimé transmettre, même en ce qui concerne la nature. Et puis voilà, donc ça. Ensuite, je me suis spécialisé un peu plus dans les orchidées sauvages. Et là, j'ai commencé à adhérer à des associations qui travaillent à leur connaissance et leur protection. Alors, on expliquera peut-être plus tard pourquoi les orchidées, hein, mais c'est un maillon essentiel de la biodiversité. Et puis après, je me suis diversifié, notamment à travers le monde animal et les oiseaux en particulier. Voilà, pour faire simple. Et puis entre-temps, il y a eu quelques livres sur le massif vosgien, ma terre natale, et puis sur les orchidées. Voilà.
Alors, donc tu passes, comme tu viens de le dire, par des associations. Tu passes par quelle association ?
Alors, pour ce qui concerne les orchidées, je fais partie d'une association qui s'appelle Fédération France Orchidées. C'est une association nationale qui a pour but la connaissance et la protection des orchidées. Et je fais partie d'une association, la déclinaison, on va dire, régionale de cette assoce qui s'appelle la SFOLA, Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace. Et là, mon rôle, c'est de cartographier toutes les espèces d'orchidées dans un but de connaissance et derrière de protection. Je fais partie aussi d'une association qui me tient à cœur, c'est Nature en Images, qui est installée à Gérardmer. Et là, on parle plus de photographie, bien sûr de nature, hein, ça reste le maillon essentiel. Mais notre travail est un peu plus, on va dire, artistique, entre guillemets. Voilà.
Je dis photographe amateur, est-ce que c'est le cas ?
Oui, je reste un enseignant de la grande maison de l'éducation nationale. Okay. C'est mon métier et je ne vis pas de ces passions, même si elles ont une place importante dans ma vie, ça reste pour moi avant tout un plaisir. Voilà.
Pour faire toutes ces choses, tu passes par le biais de la photographie, donc c'est une passion pour toi.
Ouais, la photo, j'ai commencé tôt à m'intéresser à ça. À l'époque, on faisait de la photo en argentique, et moi je travaillais sur des diapositives. Okay. Donc c'est vieux, hein, maintenant.
Ouais, voilà. C'est génial.
J'ai suivi l'évolution vers le numérique, et c'est vrai que la photo, l'image, ça m'intéresse. Figer un instant de vie sauvage, c'est c'est quelque chose qui me touche. Même si je le fais pas à n'importe quel prix, je crois que c'est important aujourd'hui de garder en tête qu'on doit être très respectueux. Les photographes doivent être respectueux de la nature et savoir renoncer à certaines photos. Je crois que c'est vraiment important. C'est un message que j'ai envie de faire passer. C'est pas la photo à tout prix, quoi. Voilà. Ouais. La photo, elle est un moyen, évidemment, de montrer la beauté des choses. Elle est un moyen d'illustrer les livres que j'ai pu commettre sur les plantes ou autres. Donc c'est essentiel, je pense, pour communiquer, mais pas à n'importe quel prix. La pérennité et la protection des plantes et des animaux que je photographie est plus importante à mes yeux.
Ouais. Eh ben, on en reparle juste après avec le premier titre que tu nous as soumis, Zao de Sagazan. c'est la symphonie des éclairs.
Merci.
Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir. Ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Alors merci Hervé pour ce partage. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce son ?
Bon, d'abord parce que ça c'est une artiste que j'aime beaucoup sa voix, ses mélodies, ça me touche. Puis il y a deux choses dans cette chanson qui m'inspire particulièrement. C'est d'abord c'est une chanson qu'elle a écrite je crois pour évoquer son hypersensibilité. Alors je sais pas si moi je suis hypersensible, mais en tout cas je suis très sensible sur beaucoup de choses, encore plus en vieillissant. J'ai l'alarme facile, alors je me reconnais un peu dans ses paroles. Et puis il y a l'évocation de l'oiseau aussi dans cette chanson, l'oiseau qui perce les nuages. Et voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous.
Bah merci. Pour moi, la musique, c'est vrai que je l'amène un petit peu partout. Est-ce qu'il t'arrive d'en écouter lors de certaines de tes séances photos ?
Ah non, non. Alors j'aime beaucoup la musique. Mais non, dans la nature, c'est très important d'avoir les oreilles
bien ouvertes.
Parce qu'il faut... On est des gros balourds, hein, nous, homo sapiens, dans la nature. Hein. Les animaux, ils nous repèrent de loin, que ce soit les oiseaux, etc. Donc, si on n'a pas tous nos sens en éveil, c'est très, très complexe de l'aborder de manière sereine. Donc, non, mais pas de musique quand je suis sur le terrain. Et ce que j'aime, au contraire, c'est le silence absolu quand on n'entend plus que les oiseaux, les insectes et les feuilles au vent. Voilà.
Alors, comment est-ce que tu as commencé la photo?
J'ai commencé, j'étais fin d'adolescence, voilà, j'ai mon premier appareil photo, et puis... Mais j'ai tout de suite été intéressé par la photo de nature. Ouais, je peux pas expliquer pourquoi, mais le paysage, puis après la flore, mais c'est... c'est un sujet... il m'arrive de faire d'autres photos, hein, de bâtiments, de personnes, quand on me le demande, mais je prends pas le même plaisir.
Ok. C'est vraiment ton truc à toi, les photos de la nature. Ouais. Alors aujourd'hui, la nature domine tous tes clichés. Ce qui me pose questionnement, c'est le fait de savoir comment tu procèdes pour photographier, par exemple, les oiseaux, les animaux, et les petits sujets comme les papillons ou les fleurs. Mmh. Avec quel matériel est-ce que tu procèdes?
Alors, il y a plusieurs questions. On va commencer d'abord peut-être par le matériel. Le matériel, il est finalement... Bon, je travaille avec un objectif réflexe et puis des objectifs que je change en fonction des sujets. Donc, pour les fleurs, les insectes, j'utilise souvent un objectif dit « macro », entre guillemets, hein, qui permet une approche avec des gros plans. Et puis, bien sûr, des focales plus longues pour les animaux, de manière à être à distance, et notamment les oiseaux. Alors ensuite, la démarche, c'est vrai que la photo animalière, c'est en fait ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est tout le temps de travail avant, de travail entre guillemets, de recherche, voilà, recherche de l'animal, de compréhension de l'animal, de ses habitudes. Il faut accepter donc de passer de longues heures en forêt, sur le terrain, où on va pas faire d'image. On va simplement équiper d'une paire de jumelles, essayer de comprendre les animaux, leurs habitudes, leurs heures de passage. Et seulement après, une fois qu'on a compris ça, on vient se dissimuler pour attendre l'animal. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est plutôt ma démarche. Hein. C'est rarement le fait du hasard, une photo. Ça arrive. Hein. Okay. Ça arrive qu'on croise un animal qu'on n'attendait pas forcément et on arrive à sortir une image. Mais c'est rarement le fait du hasard.
Okay.
Et ce travail-là, je pense qu'il est essentiel pour arriver à faire de belles images où on aura un animal qui sera tel qu'il est sans l'homme, c'est-à-dire serein, posé. Et au sein de son milieu, c'est ça le travail du photographe animalier, je pense.
Et du coup, comme on disait un petit peu en off, t'as un travail un petit peu de pistage où tu le cherches. Est-ce que, par exemple, tu suis ses traces un peu cliché?
Ouais, ça peut arriver, bien sûr. Repérer des traces dans la neige, ça peut être un bon moyen de comprendre les centres, les lieux de passage des animaux.
Ouais, alors l'hiver, ça doit être un vrai challenge.
C'est intéressant, c'est souvent une bonne période pour essayer de repérer des animaux. Après, c'est la recherche d'habitat aussi dans les arbres, hein, notamment pour les oiseaux, des loges qui sont creusées et qui vont accueillir, creusées par les pics, hein, et qui vont accueillir plein d'autres oiseaux, comme les petites chouettes ou autres. Donc ça, c'est aussi un travail, enfin j'aime pas le mot travail, je veux dire, c'est aussi une façon de faire. Pour repérer les présences. Ouais.
Il faut savoir prendre le temps aussi.
C'est essentiel, c'est vraiment la base. Moi, je dis toujours, ce qui est important dans la photo, c'est de savoir renoncer à la photo, en fait.
Okay.
C'est exactement ça. Le plaisir, il doit d'abord venir du fait de se balader dans la nature, de profiter de ces grands espaces et de se faire le plus discret possible. Et bien sûr... On rêve tous de faire une belle image. Il faut, de temps en temps, il faut qu'il y ait l'image au bout. Mais si elle n'est pas là, ça ne doit pas être grave. Ça ne doit pas être une frustration. Voilà. Sinon, je pense qu'on passe à côté. Et puis on se perd. Et puis, on retombe dans les excès de la vie moderne. C'est-à-dire, on est pressé. On veut tout de suite réussir. Non, il faut se poser. Moi, c'est ça que j'apprécie.
Si c'était si simple, la magie serait moins là.
Ouais, tout à fait. Ouais. La magie, c'est justement... quand ça fonctionne et que d'un seul coup l'animal se montre là où on l'attendait et que on l'a absolument pas gêné, on était là avant lui, on repartira après lui et on a réussi une belle image. C'est très très émouvant, je parlais de sensibilité tout à l'heure, moi j'ai souvent une petite larme face à une scène comme ça, même si l'image est moyenne, c'est pas grave, la scène était belle.
Est-ce que tu rencontres des difficultés quand tu pars à la recherche d'animaux ?
On en rencontre toujours, mais bon, j'ai envie de dire la difficulté première aujourd'hui, c'est la présence de l'homme partout, du bruit, des milieux qui sont transformés, qui disparaissent.
Ouais.
C'est ça c'est une difficulté auquel on doit faire face et qui, je pense, brise un peu le cœur de beaucoup de naturalistes. Hein. C'est la disparition du monde sauvage. On s'en rend pas forcément compte quand on est un peu à distance de la nature, mais quand on y passe du temps tous les jours, on se rend compte des évolutions et qui sont extrêmement rapides. Et oui, ça c'est une difficulté en quelque sorte, mais c'est plus grave que ça, j'ai envie de dire.
J'ai invité hier même un photographe aussi, photographe peintre qui, bah pareil, va dans la nature, un amoureux de la nature aussi, et me disait un peu la même chose, beaucoup de présence humaine en fait, plus forcément de temps seul dans la nature quand tu vas te promener, que tu veux faire des photos en fait, t'as toujours du monde finalement.
Ah c'est sûr, les Vosges sont
quand même
train de devenir un gigantesque parc d'attractions. Bon, on peut comprendre aussi qu'il y a des impératifs économiques et donc le tourisme 4 saisons, on voit bien que c'est en train de s'installer un peu partout dans nos vallées. Alors moi, je peux le comprendre d'une certaine façon, mais en même temps, pour la nature, c'est terrible. La pression qu'on lui met, la disparition de la quiétude pour les animaux, c'est terrible. Et c'est une dérive qui pourrait mener malheureusement à un effet contraire à terme, je pense. Ouais. C'est-à-dire un appauvrissement de la nature qui, en fait, est censée attirer les gens. Donc, ça peut devenir très paradoxal.
Quelle qualité est, entre guillemets, requise pour être photographe un petit peu comme toi dans le monde sauvage ?
Ça va pas être très original, mais je pense que la patience, c'est une qualité, je pense, qu'il faut travailler. On l'a pas forcément d'emblée, mais faut apprendre à prendre le temps, voilà. Et donc à partir de là, on devient patient et on accepte ces temps où il se passe rien. Mais ces temps où il se passe rien, finalement, il se passe plein de choses dans la tête.
Ah oui, ça doit être un petit moment d'introspection.
Et en fait, ça peut être aussi très très grisant, voire même addictif.
Est-ce que la photographie telle que tu la pratiques, elle est abordable pour tous?
Je pense que on peut tous se faire plaisir avec un appareil photo, je pense. Après, encore une fois, si on met en avant le plaisir d'être dehors et le plaisir d'observer, c'est abordable pour tout le monde. Il faut peut-être et après seulement, on pense à l'image et chacun, à mon avis, peut prendre du plaisir à cette activité-là.
Est-ce que tu as déjà réussi à photographier un animal que tu n'aurais jamais cru pouvoir photographier un jour ?
Oui, sans doute. On a tous quelque part dans un coin de notre tête des quêtes animales. Moi, j'étais passionné depuis longtemps par les petites chouettes de montagne. Donc c'est je me souviens les avoir observés dans les livres il y a déjà très longtemps et puis j'ai mis beaucoup de temps à réaliser mes premières images, mais je pense que photographier une petite chouette de Tegmalm en pleine journée posée sur une branche, c'est quelque chose dont j'ai longtemps rêvé, ça m'est arrivé, donc ça m'a fait beaucoup de bien. On a tous comme ça dans un coin de notre tête une rencontre qu'on souhaite avec un animal.
Les chouettes en particulier, apparemment, c'est très
discret. J'aime beaucoup les oiseaux et les petites chouettes de montagne, ces êtres un petit peu mystérieux, fantomatiques de nos vieilles forêts, c'est quelque chose qui me touche. On pourrait parler du grand tétras aussi. Alors, je l'ai jamais photographié, mais j'ai jamais cherché à le photographier non plus, parce que je sais que c'est un animal qui était en voie de disparition et malheureusement aujourd'hui il a disparu et on va peut-être pas débattre sur le retour du tétra dans les Vosges, mais c'est un animal que j'aurais aimé photographier et que je n'ai jamais photographié, mais pour le coup j'en souffre pas, c'est pas grave, il faut accepter justement cette part d'échec en quelque sorte.
Qu'est-ce que tu préfères prendre en photo?
J'ai pas de préférence, tout m'intéresse. Un insecte, une fleur, un papillon, un oiseau, un mammifère, je...
Tout, quoi.
Tout, ouais. Après, c'est plus l'émotion, je disais encore tout à l'heure, qui m'intéressait. Et je peux être très ému à voir une fleur rare, une orchidée rare que j'avais pas vue depuis longtemps ou qui va être très originale par ses couleurs. Là, ça va me toucher et m'émouvoir tout autant qu'un papillon, qu'un oiseau ou autre.
Qu'est-ce que tu penses dans ces moments-là ?
À la fragilité de ce que j'ai en face des yeux. Voilà, j'ai surtout pas envie de... C'est, pour moi, c'est comme des joyaux dans un écrin et je j'ai pas envie de leur faire de mal et je me dis que il y a tellement de choses qui les menacent. Que voilà, c'est souvent à ça que je pense, ouais.
Eh bien, on va passer à notre deuxième son, du coup, que j'ai choisi. C'est La Planète de Trio, tout de suite, sur Radio Gemozo.
Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois?
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la Voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler. Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route, forcés de quitter leur terre, coûte que coûte. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. C'est l'appel des étoiles dans la ville folle, a changé mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années, quand les marchands de sable veulent te faire oublier. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton cœur, et toi,
la planète,
qu'est-ce que tu vois?
C'était Ta Planète de Trio. J'ai trouvé que c'était un bon son pour introduire la suite de l'émission. En tant que naturaliste, tu dois avoir un avis sur la manière dont on traite notre planète aujourd'hui.
Je suis malheureux de la manière dont l'homme traite la nature, dont nos sociétés avancent d'un pas et reculent de trois. C'est dur. C'est dur à certains moments de se rendre compte du mal qu'on lui fait et de l'indifférence que ça peut engendrer parmi nos contemporains. Ouais, c'est pas simple.
Peut-être qu'avec le temps, t'as été de plus en plus confronté, du coup, comme on disait un petit peu tout à l'heure, à la présence humaine, à la pollution dans les lieux qui devraient être clean.
Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai quand même un petit peu de recul, notamment sur la flore et les orchidées sauvages. Ce qui est terrible, c'est de voir disparaître des milieux entiers, Alors qui disparaissent toujours, enfin il y a plein de raisons hein, qui mènent à la disparition de milieux et donc d'espèces, mais toujours il y a cette finalité économique et qui est là et on a l'impression qu'on peut rien faire contre ça. Alors une fois c'est l'agriculture intensive, une autre fois c'est un champ d'éoliennes ou des panneaux photovoltaïques qu'on va installer dans ce qu'on considère comme une friche ou une zone inculte. L'homme aime bien mettre des qualificatifs comme ça sur des milieux en fait qui sont extrêmement riches. Une friche, un milieu inculte, une ancienne carrière, c'est plein d'espèces, c'est plein de vie. Et en fait, on occupe ces endroits comme si finalement ils ne servaient à rien. Or, en fait, ils nous sont essentiels. Ça, je l'ai vu maintes et maintes fois et on le voit encore malheureusement. Et on a l'impression qu'on n'y arrive pas, quoi. Que le message il passe pas.
Quel message, alors, du coup, tu voudrais passer en tant que naturaliste ?
Alors, c'est complexe, hein. Moi, j'essaye de travailler au sein d'associations pour rendre un petit peu à la nature ce qu'elle m'apporte et essayer de travailler à sa protection. Je fais pas de miracle, hein, mais j'essaye à titre personnel de m'investir un petit peu. Moi, ce que je voudrais dire à nos contemporains, c'est que ils se rendent compte que la nature, c'est pas juste des cartes postales, c'est pas juste des belles images. En fait, elle nous est essentielle. Notre part sauvage, si elle disparaît, c'est nous qui disparaîtrons. Je crois que c'est le jour où on aura compris que l'homme a besoin du sauvage. Il a besoin de nature pour vivre, tout simplement. Et je pense que là, on voit bien, on est au bord du gouffre et c'est parce que, je pense, on s'est trop coupé de la nature.
Et puis on essaye de réguler des trucs qui se régulent de base tout seul, en fait.
Oui, alors là, on aborde un sujet polémique, la régulation et la chasse, ouais, sans doute. Mais je pense qu'il y a des vrais combats à mener d'abord au sein de la protection des milieux et des espèces avant d'aborder ces thématiques-là. Et tous les jours, on détruit, tous les jours, on vote des lois qui on le voit là encore hier avec le retour en force des pesticides dans l'agriculture intensive. Et c'est dramatique. Alors qu'on avait fait un pas en avant, on vient d'en refaire trois en arrière. Donc ça, c'est dur pour les naturalistes. Mais le jour où on se rendra compte que c'est dur pour tout le monde, parce que c'est nos cancers de demain. Je comprends pas qu'il n'y ait pas un moment une prise de conscience qui aille dans le bon sens. Alors c'est toujours sur le fait que on a besoin d'une économie, et c'est vrai, on a besoin d'agriculture, faut qu'on mange, mais à quel prix et c'est toute la question.
Quels sont les plus grands défis selon toi aujourd'hui en ce qui concerne la conservation de la nature ?
Les plus grands défis, alors, je pense que ce qu'il y a de sûr, c'est que on est confronté aujourd'hui à des phénomènes qui sont globaux. Le changement climatique, personne ne peut le nier. Enfin, si, malheureusement, il y en a qui continuent à le nier, et ça, c'est quand même dur. Donc, ces phénomènes globaux, ils passeront par une prise de conscience collective. Et même si tout un chacun, on peut faire quelque chose, on ne pourra pas se passer de mesures et de décisions gouvernementales et internationales. Je crois que ça, c'est le plus gros défi qui nous attend. C'est d'arriver à tous ensemble prendre les bonnes décisions pour assurer la vie de nos enfants et de nos petits-enfants.
À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre échelle pour faire avancer ça ?
À notre échelle, moi je pense qu'il y a une chose que les Français pourraient faire, et c'est pas dans leur culture, les Français, d'adhérer à des associations naturalistes. Simplement adhérer, prendre une adhésion à une association naturaliste, on peut en citer plein, je peux vous en citer plein si vous voulez des exemples. c'est donner du poids à ces gens-là qui tous les jours se battent pour faire avancer les choses en matière d'environnement. On prend un pays comme le Royaume-Uni ou même les pays scandinaves. Au Royaume-Uni, l'association qui protège les oiseaux, ils sont 1 300 000 membres, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est énorme. Donc, c'est un lobby puissant dans les décisions. Quand ils sont invités par les politiques, on les écoute. En France, la première association naturaliste, c'est la LPO. Je ne voudrais pas dire de bêtises non plus, mais je crois qu'on est autour de 60 000 membres.
Vous
voyez, si on compare.
En comparaison,
avec...
c'est
donc,
pas.
Donc, simplement adhérer à une association. Alors, la LPO, Oiseaux Nature, par exemple, dans les Vosges, où il y a plein d'associations qui travaillent à défendre la nature. Adhérer simplement, c'est pas grand chose, ouais. C'est 10-15 euros par an. Eh bien, c'est donner du poids à ces associations pour convaincre et agir au niveau des élus. Donc voilà, ça c'est un petit geste qu'on peut faire. Hein. Puis après, si on veut, on peut s'engager un petit peu plus loin. Hein. Les associations, elles ont besoin de bénévoles pour des gestes tout à fait anodins, mais qui sont en fait des gestes essentiels. Bah, un jour, on va ramasser les poubelles ou les plastiques dans un petit coin. Un autre jour, on va faire des comptages d'oiseaux ou de plantes. Et puis, on travaille ainsi, tout doucement, à faire vivre ce qui, en fait, est essentiel.
Alors, comme je le disais en début d'émission, tu as écrit, produit plusieurs livres sur les orchidées. Alors, c'est un végétal qui t'attire pas mal, ça.
Ouais, alors, je me suis intéressé à la botanique d'abord, mais après les orchidées. Alors, les orchidées sauvages, hein. Si vous me demandez de faire refleurir votre orchidée sur le coin de la fenêtre, je vais pas y arriver.
Okay.
Voilà, donc, les orchidées sauvages m'attirent particulièrement. Alors, d'abord parce que ce sont des plantes très très belles, elles qui sortent souvent de l'ordinaire, qu'on remarque. Mais aussi parce que c'est des plantes extrêmement complexes. Elles ont développé des stratégies pour vivre, pour se reproduire, qui sont très très élaborées, ce qui les rend du coup très fragiles. Et donc les orchidées, c'est un super indicateur de la bonne santé d'un milieu, d'un écosystème. Donc les observer, c'est souvent prendre conscience de l'enjeu crucial qu'il peut y avoir sur un milieu. Donc les connaître, les observer et les protéger, eh bien c'est un bon levier, je pense, pour protéger la nature dans son ensemble. Donc oui, c'est des plantes qui m'intéressent depuis maintenant très longtemps et je travaille au sein d'Assos à leur connaissance et à leur protection.
Mmh. Elle te vient d'où, cette passion pour ces plantes?
Pour les orchidées?
Ouais.
Elle me vient d'une époque où j'étais étudiant à Nancy et où je me suis baladé sur un coteau calcaire du côté de Pont-à-Mousson. Mmh. Et un jour, sur une pelouse calcaire, je suis tombé à genoux devant une plante qu'on appelle un ophrys.
Ok.
C'est des plantes incroyablement sophistiquées et je tombais à genoux devant ces plantes-là tellement je les trouvais belles et fascinantes et je dis toujours que je me suis pas relevé en fait.
Ah ouais,
je
ok.
Je suis resté à genoux et depuis ce temps-là, maintenant, depuis une trentaine d'années, je reste à genoux devant les ophrys. Voilà.
Tes photos et projets sont presque uniquement centrés sur nos Vosges, nos belles Vosges, il me semble.
Non, enfin, pas vraiment, non. Oui, bien sûr, ça reste mon terrain de jeu, entre guillemets, c'est là où j'y passe le plus de temps et j'ai commencé d'abord par ça. Mais pour les orchidées, je suis allé à une époque beaucoup plus loin. Alors c'est moins le cas maintenant, mais j'ai traversé la France, je suis même allé à l'étranger pour voir des plantes un petit peu originales.
Ouais.
Et puis les oiseaux, c'est un peu la même chose. Maintenant, j'axe souvent, quand je pars en vacances, souvent j'axe mes vacances avec cette approche là, c'est-à-dire est-ce que je pourrais aller dans une réserve naturelle ou un endroit particulier pour essayer d'observer des oiseaux qu'on voit pas chez nous. Donc non, je vais un petit peu plus loin que les Vosges, mais ça reste mon fond de commerce, entre guillemets.
D'accord. Ouais, ça doit être assez intéressant de voyager et du coup d'être confronté à des choses différentes de ce qu'on voit tous les jours finalement.
Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'on peut me mettre n'importe où. Moi, j'arriverai toujours à trouver un petit peu de nature et essayer de voir ce qu'on peut trouver. Chaque région a ses secrets et ses secrets naturels. Et c'est bien d'essayer d'aller les voir et les observer tant qu'ils sont encore là. Du moins, j'essaye.
Eh bien, avant de clôturer cette émission, on va se passer notre dernier son. C'est Feu
Chatterton.
Le monde nouveau.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule et dévot, à moitié épaillé, on se mouillait mollement. La glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Amour.
Ça vient nous faire de nos mains. Monde nouveau, on en rêve
demain, on le bégayait tous, sans y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Belle étoile en même temps, la clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on l'aurait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le tout.
C'était Hervé Parmentelat sur l'Actuali. Du coup, tu as écrit tes livres. Où est-ce qu'on peut les retrouver?
Alors, beaucoup sont épuisés déjà, malheureusement. Mais sinon, il y a encore quelques livres sur les orchidées qui sont... Il y en a un surtout qui est encore disponible en librairie et en ligne ou dans les vraies librairies en dur, aux éditions Biotope, qui s'appelle « La découverte des orchidées d'Alsace-Lorraine ». Celui-là, il est encore disponible, entre autres. Voilà.
Ok. Pareil, tu fais des expos pour tes photos. Y en a-t-il à venir?
Alors, je fais partie d'une expo qui s'appelle Nature en Images, auquel je tiens, j'en ai parlé tout à l'heure, et j'expose souvent dans le cadre des expos de cette association. Alors, notre prochaine, elle est programmée pour les vacances d'été à Gérardmer, dans le parc du Trexot, en face du casino. C'est une expo collective en extérieur sur Bâche. Voilà, ça fait quelques années qu'on fait ça, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ce rendez-vous. Donc sachez qu'il aura encore lieu cette année et on pourra y voir de belles images, j'espère. Voilà.
T'as les dates?
Exact, non, mais en général on met en place l'expo pour le tout début juillet, on démonte fin septembre, donc ça fait 3 mois pour venir l'observer, c'est gratuit et ça embellit les rives du lac à Gérardmer.
Ouais, voilà. C'est génial. Alors, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Ouais, on peut me voir sur les réseaux sociaux, un petit peu, Facebook, Instagram, et puis j'ai une petite chaîne YouTube aussi, où il y a quelques clips vidéo, parce que je fais un petit peu de vidéo quand je peux, ouais.
Ok, trop bien. Est-ce que tu as de nouveaux projets pour l'avenir?
Ouais, il y en a un là qui est en train de se concrétiser, peut-être un prochain livre, voilà.
Okay.
On peut en parler davantage, mais un livre sur les Vosges sauvages qui est en train de se préparer. Ouais, j'espère qu'on arrivera au bout de ça, et puis des expos photos avec les amis sans doute encore, ouais. Bien sûr.
Et n'hésite pas à revenir pour faire la
plaisir.
Promo de ton nouveau livre.
Ouais, on en reparle dans quelques mois si tout va bien.
Allez, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite?
Alors, on me souhaite plein de bonheur dans la nature, et puis on va surtout souhaiter à la nature de résister vaille que vaille à cet homme qui l'accapare et l'abîme.
Voilà, on lui
c'est à elle qu'il faut souhaiter du bonheur.
Un petit mot pour la fin?
Merci de m'avoir accueilli avec, avec Toscane.
Ouais, elle est là, elle nous écoute, elle est très attentive.
Et puis merci à ceux qui prennent plaisir à écouter cette émission.
Bah, merci à toi, Hervé, d'avoir partagé avec nous ta passion et ton amour pour la nature.
Merci.
J'espère, auditrice, auditeur, que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, vous pourrez bientôt la retrouver sur notre site internet en podcast. Sinon, rendez-vous demain pour la rediffusion. Entre-temps, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et à bientôt. Thank you.